La fondation commence à notre réunion de la Société de Jésus pour la Vie avec une prière. Alors, si vous voulez bien, je ferai d'abord une courte résumé de ce que nous avons déjà vu pour les personnes qui ont déjà assisté et pour celles d'entre vous qui sont pour la première fois. Alors, on a vu en fait trois chapitres du livre du don Maréchaux. Derrière vous, vous pourrez ensuite regarder, si ça vous intéresse, il y a un livre complet, ensuite une sorte de photocopie, c'est toujours la même chose, seulement le prix qui diffère, et un petit article sur la Société de Jésus couronné d'épines, et aussi une liste pour les personnes qui sont pour la première fois, s'ils souhaitent d'être informées par rapport à la prochaine réunion, par rapport à la date. Alors d'abord, la Société de Jésus couronné d'épines, elle a été fondée en 1878 à Menil-Saint-Loup par le Père Emmanuel. Son but était de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles, ce qui équivaut à la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion. Parce que là, on a promis de renoncer aux pompes du Satan et du monde. Les premiers places. Alors le but c'est ça, promouvoir la modestie chrétienne, et il y a deux moyens. Le moyen d'abord, le plus important, c'est l'union des âmes dans la charité. Et le deuxième, c'est la pratique de la modestie dans les habits. On peut un peu expliciter, en passe adjectif, cette pratique de la modestie dans les habits. D'abord, je pense qu'il faut bien comprendre l'enjeu, l'utilité et la nécessité de la modestie. En être convaincu et agir selon cette conviction. Je pourrais citer Benoît XV, ce qu'il disait en 1919. L'ignorance peut seule expliquer la déplorable extension prise de nos jours par une mode si contraire à la modestie. Modestie, le plus bel ornement de la femme chrétienne. On peut ajouter, après avoir compris, il faut agir selon ses convictions, et ensuite, ce qui est le plus difficile, résister à l'influence de l'environnement. Ça, c'est le plus difficile. Oui. Alors, comment faire? Bon, d'abord, donner un bon exemple. Si on donne un bon exemple, quelqu'un va demander pourquoi vous êtes comme ça. Alors, il faut expliquer ses raisons. C'est pour ça qu'on fait ces réunions, pour vous donner des raisons. Et ce qui est le plus important, et j'ai eu un témoignage bien précis, bien fiable, c'est la fidélité au chapelet quotidien. Oui. Alors on a vu but, moyen, engagement. Pardon, but, moyen, maintenant engagement. Engagement très simple et très grand. C'est ce que nous venons de faire tout au début, c'est la prière quotidienne, Notre-Dame de la Sainte Espérance, confessez-nous, Ave Maria, Notre-Dame de la Sainte Espérance, etc. Oui. Alors, chaque jour, est-ce que vous pouvez le réciter? Voilà. Après avoir vu la Société de Jésus couronné d'épines, nous avons vu aussi les règles apostoliques, le soi-disant argument d'autorité. C'est Saint Paul. Est-ce que je note? Je note votre référence? Oui, non. Saint Paul et Saint Pierre. Saint Paul, premier épître aux Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Et Saint Pierre, premier épître de Saint Pierre, chapitre 3, deuxième, versets 1 à 7. Voilà. Je résume le passage tout là-bas. Il y a quelques prescriptions sur la modestie, très pratiques. Pas d'artifice dans l'arrangement de chevelure, de la chevelure. Deuxième, pas d'or et de perles dans les parements. Et troisièmement, pas de somptuosité coûteuse dans les habits. Et Saint-Pierre ajoute l'importance de la modestie, que c'est un moyen d'apostolat. L'apostolat. Tout au début, quand les épouses se convertissaient, elles convertissaient ensuite leurs époux, justement, par la modestie. Donc, je prends la modestie. Et troisièmement, ce qu'on a vu, c'est le précepte de Saint Paul de la tête voilée. Tête voilée. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3 à 17. En gros, il dit là-bas que la femme se voile en signe de dépendance vis-à-vis de son mari. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? C'est un petit rappel, je pense. Et pour les autres qui n'ont pas assisté, ça va pour l'instant? D'accord. Aussi, à la fin de la dernière réunion, nous avons parlé du port du pantalon par des femmes. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, alors c'était un peu rapide. Alors, on a vu un livre, quelques citations du livre que je vous conseille de ne pas lire, mais seulement de connaître. C'est l'histoire politique du pantalon, écrite par une personne qui n'est pas du tout traditionnaliste, et qui constate que le port féminin du pantalon, citation, est étroitement associé avec la révolution aux valeurs républicaines, avec ces trois mots d'ordre. Liberté, pourquoi liberté? Liberté vestimentaire. Pourquoi égalité? Tout simplement parce que la femme s'habille comme un homme. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qui culotte un pouvoir a? Et fraternité. Alors les révolutionnistes, ils disent le trait naturellement féminin dans le vêtement n'existe pas. Un vêtement féminin, c'est subjectif. Alors, nous profitons de donner d'autres arguments, cette fois-ci, du camp catholique. Alors, en 1960, le cardinal Siri, archevêque de Gênes, adressait à tout son diocèse un avertissement à propos du vêtement masculin porté par les femmes. En voici quelques passages. D'abord, il donne un principe. Qu'est-ce qu'un vêtement modeste? Quelles sont ses conditions? Il y a deux choses qui sont nécessaires à la modestie d'un vêtement. Qu'est-ce que ça peut être? Vous avez des idées?
Sa forme?
Oui.
Sa couleur?
Non, pas forcément.
Ce qu'il cache?
Voilà. Alors, premièrement, il couvre le corps. Et deuxièmement, il dissimule les formes. Alors, est-ce que le pantalon réalise ces conditions? Pour la première chose, il couvre le corps. Un pantalon couvre le corps de façon moins insuffisante que la plupart des jupes de notre époque. Bon, je pense qu'il parlait d'un mini-jupe. Mais par rapport au deuxième point, cela veut dire la dissimulation de forme. Le pantalon moule le corps bien plus que ne le fait une jupe. Et il ne cache pas parfaitement les jambes. Bon, ça veut dire qu'il les sépare tout simplement. Donc, le port du pantalon par une femme est immodeste en raison de sa étroitesse, tout simplement. Mais cela, d'après l'archevêque, n'est pas le plus grave. Voici un autre aspect du port du pantalon par les femmes. C'est très important. D'abord, il y en a trois. L'habit masculin employé par une femme altère la mentalité féminine. Écoute. Je répète. L'habit masculin employé par une femme altère la mentalité féminine. Et d'où ça vient? Ça vient tout simplement du désir d'imiter l'homme, de rivaliser avec lui. Parce que l'homme est considéré comme le plus fort, plus indépendant. On pourra un peu paraphraser, ça veut dire faire une comparaison, à la première tentation d'Ève. Alors, qu'est-ce que le diable a dit à nos premiers parents? Vous serez comme Dieu. Alors, on peut dire qu'il chuchote à Ève, vous serez comme Adam.
Oui,
c'est
mieux d'être Dieu quand même.
Hein. Mais c'est toujours la même chose, ce n'est pas sur sa place, vous voyez? On est à côté. Et pourquoi tout cela? Parce que la tenue vestimentaire influe sur le comportement et sur l'état d'esprit. Résultat, cela peut conduire une femme à une sorte de refus de sa féminité. Et le simple temps de lui pondre. Deuxième chose. Alors qu'on a vu la femme par rapport à elle-même. Maintenant, un autre aspect. Le port féminin du pantalon tend à vicier les rapports entre hommes et femmes. D'abord un petit principe, c'est toute la vie. Alors, vous savez bien qu'il y a un attrait, il existe un attrait mutuel quand l'homme et femme arrivent à la maturité. Et d'où ça vient? Cela vient de la diversité des sexes et de la complémentarité. On est divers, on se complète. C'est comme un peu le père Marie-Gagny quand on partait pour pique-niquer à l'extérieur. Il a dit qu'en France, pour bien pique-niquer, il y a deux choses qui sont nécessaires. Du vin et du fromage. C'est pas la même chose, mais ça c'est pas la même chose. Alors, mais maintenant pour le pantalon et pour le pain. Et si cette diversité devient moins visible entre un homme et une femme par le port féminin du pantalon, ce rapport est bouleversé. Voilà. Alors il y a une attirance. Et à côté de cette attirance, il y a aussi, heureusement, la pudeur, comme un rempart qui impose le respect. Le respect qui élève les relations. Donc, s'il n'y a plus de diversité de vêtements, il n'y a plus de ce rempart. La pudeur ne peut pas se soutenir et la relation devient plus sensuelle. Conclusion, quand la femme est assimilée à l'homme, ses défenses sont réduites. Troisièmement, on a vu la femme par rapport à un homme. Maintenant, un autre aspect, une tenue masculine portée par une femme, porte atteinte à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants. Comment ça se passe? Alors, tous les enfants possèdent instinctivement le sens de la dignité et de l'honneur de leur mère. Si la mère ne répond pas à l'image très haut placée que l'enfant s'en fait, ses réactions seront profondes et durables. Parce que les enfants sont très naturels. Les réactions sont naturelles. On ne peut pas les tromper. Ils semblent souvent d'être sourds. Il va falloir veiller. Ils ont des yeux de lynx. Alors vous voyez, un simple fait de porter un pantalon par une femme, c'est pas neutre. Alors ça influe en plusieurs sens la relation en elle-même, si je dis comme ça, la relation avec les hommes et avec les enfants, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses. Alors au lieu de faire des manifestations qui ne servent à rien, dont notre ennemi se sert pour nous combattre, nous attaquer davantage, bon, il faudrait peut-être de penser
Elle n'est pas portée le pantalon, tout simplement. C'est tout simple. Hein. C'est très concret. Très concret.
Ça va? Il y a des questions? Je pense que ces arguments sont assez bien choisis. Vous voyez, c'est simple et c'est pas grave.
On n'a pas ici la plaquette de la bidoux.
Je demande de chacun, il n'y a pas.
C'est ce texte qui vient de citer le père du cardinal.
On
se trouve dans la plaquette de la bidoux.
Voilà. Une plaquette, elle n'est pas encore chez nous, si vous voyez au moins la couverture.
Mais il me semblerait que dans le cercle de lecture de Foyer, oui. On a eu ça l'année dernière, le petit mot du cardinal. Voilà.
Ah, d'accord. Sinon, vous avez problème à cette plaquette, qui n'est pas maintenant, elle sera bientôt. Hein.
Non,
mais
c'est pas besoin de
plus. Bon, laissons le pantalon. Alors, en fait, la chose la plus importante que nous faisons, c'est le résumé du livre du Don Maréchal, la modestie chrétienne. Alors, tout simplement, on le résume, on essaie de s'imprégner des principes qu'il nous donne. Alors, j'ai déjà dit qu'on a fait en trois chapitres. Qu'est-ce que c'est la société de Jésus couronnée d'épines? Quelles sont les règles apostoliques? Et le précepte de Saint Paul? Maintenant, passons au quatrième chapitre, c'est la colère de Dieu contre les femmes vaines. Alors, avant d'aborder le sujet, je vais expliquer le mot vanité. La question a été posée à la réunion précédente, qu'est-ce que la vanité? Alors, d'abord, nouveau petit Larousse. Nouveau, date de 1960 quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup de changements, je pense. Alors, vanité, c'est l'orgueil futile, désir de paraître, de produire de l'effet. Expression tirée vanité de, cela veut dire se glorifier de quelque chose, s'enorgueillir. Maintenant, on peut dire plus consistant. Plus quelque chose. Alors, vanité, c'est une forme de la vaine et gloire, tout simplement. La vaine et gloire se greffe sur quoi? C'est une vertu, c'est une vice. Voilà, c'est l'orgueil. Voilà. Donc, elle est fait difficilement séparable. La vanité est cette forme de vaine et gloire qui s'attache à rechercher une manifestation d'excellence dans les choses futiles et sans valeur réelle. Alors, on peut résumer. La vanité, c'est donc l'orgueil s'attachant à des choses vaines. Tout simplement. Expliquons un peu encore. Chez des personnes plus profondes, l'orgueil s'appelle vanité parce qu'il s'attache à des choses vaines. Briller, passer pour intelligente, bon, je ne sais pas, bon, c'est pas seulement pour les femmes, mais il ajoute un peu à la fin. Élégante, recueillir des hommages et des compliments. Il ne s'agit pas d'avoir une valeur véritable, mais seulement d'être admiré. Et quelles sont les manifestations de cette vanité? Manifestations habituelles de la vanité, par exemple, chez les filles. Le désir violent de plaire, la passion pour les ajustements. Par exemple, une coiffe, un bout de ruban, une boucle de cheveux, du haut ou du bas. Le choix d'une couleur, ce sont pour elles autant d'affaires importantes. Ne jetez pas encore vos parapluies. Les hommes ne sont pas exempts de ce défaut. Et par rapport à la moralité, parce que c'est la chose qui nous intéresse le plus, la vanité s'attachant à des choses futiles et vaines ne saurait en soi dépasser la faute vénielle. Toutefois, le désir de paraître et de se voir valoir peut parfois entraîner à des fautes graves, à des indélicatesses, à la méconnaissance des vrais devoirs, tout étant sacrifié à ces jouissances, pourtant sans valeur, de la vanité satisfaite. Ça va?
Je pense que
ça suffit pour la vanité?
Ok, quand même.
Alors, pour la... Bien. On parle maintenant de la colère de Dieu contre les femmes vaines. On va voir deux choses. Que les femmes vaines sont instruments du péché et quelle est leur punition. L'Écriture sainte nous parle, nous dit deux choses par rapport à femmes vaines. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est la femme vaine? Pardon. D'abord, un petit principe. C'est la manière de se vêtir qui nous permet de distinguer une femme honnête d'une femme qui ne l'est pas. François. Le signalement de celle-ci, de la femme qui n'est pas honnête, est le culte, je répète, le culte de la toilette et l'ornement excessif. Excessif. Alors, Romain Réchaud commente. Malheureusement, aujourd'hui en 1913, cette distinction est effacée. C'est ce qu'on va dire aujourd'hui ou pas. Car les femmes qui se disent honnêtes prennent modèle sur celles qui font métier d'exciter au vice. Que dit encore l'Écriture sainte au sujet des femmes somptueusement ornées? Que c'est dangereux de les fréquenter ou même simplement de les regarder. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ? Ecclésiastique. Alors je pensais de lire, si vous voulez, tout le chapitre 9 d'Ecclésiastique. Ecclésiastique.
Ecclésiastique.
Tout le chapitre 9 vient.
Ecclésiastique,
c'est la lettre qu'on a deux. C'est pour ça que je viens. Tout ce chapitre est intitulé Prudence dans les rapports avec les femmes. Je vais vous lire quelques passages ensuite. Mais le passage qui nous intéresse le plus. Ecclésiastique chapitre 9, verset 9 à 10. Prudence dans les rapports avec les femmes. Alors, il en donne plusieurs, si je peux dire comme ça, plusieurs sortes de femmes. D'accord. On va de. Ne va pas à la rencontre d'une femme courtisane, de peur de tomber dans ses filets. Pourquoi est-ce qu'on parle de la femme courtisane? Parce qu'on vient de dire, quand je dis, la différence entre une femme honnête et la femme qui n'est pas honnête est effacée. Ne reste pas longtemps avec une chanteuse, de peur que tu ne sois pris par son âme. N'arrête pas ton regard sur une jeune fille, de peur d'avoir à subir des châtiments à cause d'elle. Et ici, ce qui ne va pas nous intéresser le plus, détourne les yeux de la femme élégante. Elle regarde par curieusement une beauté étrangère. Beaucoup sont séduits par la beauté de la femme et la passion s'y allume comme un feu. Il reste encore une femme mariée. Ne t'assois jamais auprès d'une femme mariée. Ne t'accoude pas à table avec elle. Elle ne boit pas avec elle le vin dans les banquets de peur que ton âme ne se tourne vers elle et que la passion ne t'entraîne à ta perte. C'est pratique ou pratique. Voilà, alors c'est l'Ancien Testament et notre Seigneur qui vient renouveler la loi. Est-ce qu'il parle à ce sujet d'une autre façon, d'après vous? Il est plus soft ou plus dur, est-ce qu'on peut dire? Oui, il est beaucoup plus sévère et beaucoup plus exigeant. Car un seul regard de la concupiscence, il est souligné concupiscence, cela veut dire que ce n'est pas un regard passager, mais un regard prolongé et décidé à commettre le péché, si c'était possible. Alors, donc, un seul regard de concupiscence entraîne un grave péché d'impureté.
Mais excusez-moi, est-ce qu'il faut que les femmes se défigurent alors?
Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite.
En fait, après, c'est la vie de Caille.
Oui, voilà. Non, 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 non. Patience. On n'a pas de parenthèse, sinon. Alors, qu'est-ce qui donne notre Seigneur? C'est pas moi, c'est notre Seigneur. Hein. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Pour répondre à votre question, bon, ça dépend comment la femme sera. Si elle sera habillée comme il faut, il en a eu un témoignage, je ne sais plus, la dernière fois, la femme qui était bien habillée avec une jupe, elle était respectée. Elle était respectée. Et non pas décidée avec concupiscence.
Oui.
Ça va, on
enfin,
va
continuer. Aussi des
on va continuer, ensuite, si vous avez des questions, on va.
Oui, parce que moi j'ai une fille qui a été embêtée alors qu'elle était en jupe, elle était correcte et tout. Oui. Donc c'était. Et j'ai une sœur qui était bien plus embêtée quand elle était en jupe qu'en pantalon dans les transports en commun, par exemple. Alors, c'est pas facile.
Bon. On va continuer un peu, s'il vous plaît. Alors, dans ma réchauffe, voici ici une question. Que penser? Bon, on va répondre tout à l'heure. Que penser des femmes qui cherchent de propos délibérés à attirer sur elles des regards, ceux de la concupiscence? Réponse. Elles seront responsables des péchés qu'elles font commettre. Ouais. Je pense que le but de nos réunions, c'est de. Bon, de former bien les consciences, parce que bon, si vous n'êtes pas embêté, il faudrait se mettre en pantalon, c'est pas une issue, parce que ça, on a vu que le pont du pantalon n'est pas neutre. Si ça pourrait arranger, je sais pas en quel sens, ne pas être embêté à un certain point, il y aura d'autres choses beaucoup plus graves qui vont prévaloir. Hein. Bon.
Excusez-moi, mon père, oui. Mais sommes-nous responsables des péchés qu'on commet, des gens qui sont déjà tout. Vous savez quel est le film qui sont les films, il faut plus regarder sur Internet à l'heure actuelle, je vais dire que ce soit enregistré, mais je vais vous dire quand même, c'est film pornographique. Donc la plupart des jeunes actuellement ont l'esprit mal tourné. Sommes-nous responsables, quelle que soit notre tenue, des mauvaises pensées contre ces gens-là, oui. Armés, alors qu'ils sont eux-mêmes déviés.
La tenue est quand même importante.
Oui, mais n'importe quelle personne, n'importe quelle fille, quelle qu'elle soit habillée, pourvu qu'elle ait un joli visage, attirera leur attention. Donc est-ce qu'on est responsable juste parce qu'on est par l'aide à regarder des mauvaises pensées qu'ils vont avoir parce qu'eux sont déviants? Bien comprendre qu'il y a énormément de gens actuellement qui ne voient pas le défaut. Ce qui m'embête, c'est cette phrase-là. On serait responsable des péchés commis. Sauf qu'à l'heure actuelle, la plupart des hommes ont cette concupiscence exacerbée. Alors on est responsable des péchés qu'ils commettent? Alors que c'est eux qui sont déréglés.
Mais c'est pour les grands côtés, t'as tout fait pour ne pas dire rien.
Ah ben non, mais c'est parce qu'elle dit. C'est dit que si on provoque, on lui réponse. Mais on provoque pas, on ne change rien qu'en passant dans la rue. On provoque déjà parce qu'on est. On est un être humain, on est une femme. Si vous passez dans une rue de musulmans, parce que vous êtes catholique, parce que vous n'êtes pas avec la burqa, vous provoquez leur attention. Alors, est-ce qu'on est responsable de ça?
On ne provoque pas la
même chose. Si, ça, mon père, je vous assure, il vous regarde et il vous siffle. Vous vraiment qu'une jeune fille n'a pas sa burqa dans son plein quartier musulman, vous êtes une prostituée pour eux. Alors, est-ce que cette phrase s'applique dans ce cas-là? Parce que pour eux, vous n'êtes pas habillée décemment.
Non,
je n'ai pas envie de m'habiller en musulmane, mais c'est la phrase qui me gêne. Est-ce que de nous rendre, on attire n'importe quel. Il y a des hommes qui sont vraiment actuellement portés.
Déséquilibré.
Alors, on est responsable de leur péché? C'est ce que veut dire cette phrase.
Non, là, c'est un peu comme dans la table de notre Seigneur, c'est la question du scandale. Et là, il y a des gens qui sont scandalisés et qui le sont par leur propre faute. À ce moment-là, vous n'êtes pas responsable. C'est comme notre Seigneur, les pharisiens étaient scandalisés de ce qu'ils disaient, Mais notre Seigneur ne faisait pas trop, c'est pas
voilà. C'est important à spécifier.
Mais cela dit, si on est responsable dans certains cas, effectivement, non. Je peux savoir si on a fait quelque chose qui entraîne le scandale,
ou si
le scandale
est purement
passif. Oui, voilà.
La différence est
très
difficile.
Malgré tout, on ne circule pas tellement dans les quartiers musulmans, on les évite. Était Anne, quand elle était en faculté à Lille, il y avait beaucoup de musulmans, et elle a toujours été avec des jupes très longues, et elle était très respectée d'eux. Ils essayaient de... demander de se faire musulmane, il l'a respecté quand même.
Oui, mais je pris juste cet exemple-là, mais il n'y a pas ça. Je n'ai pas vu dans les lycées sont un problème ce chapitre de la convoitise et de la concupiscence.
Il faut aussi distinguer ce qui est des règles générales et puis des exceptions.
À l'heure actuelle, les exceptions sont plus nombreuses que les règles générales. Donc, dans le monde extérieur, vous avez plus de gens qui sont attirés par leur concupiscence et qui sont incapables de la régler, que de gens qui sont tout à fait maîtres d'eux.
Oui, et en général, avec une tenue modeste, inspire le respect. Maintenant, de façon exceptionnelle, si vous êtes Sandra Lark, vous êtes dans une armée, il vaut mieux avoir un pantalon parce que c'est quand même, ça reste exceptionnel.
Alors, par rapport à la femme en femme mère, on a vu qu'elles sont instruments du péché. Deuxièmement, quelle est leur punition? On ne peut pas noter que Dieu met en horreur les femmes qui excitent l'homme au péché.
Il excite. Oui. Voilà, il y a une volonté, il y a un désir.
Je n'ai pas compris la question, c'est pour ça que je...
Non, parce que les phrases que vous citiez, c'est de toute façon, ne vous avez pas à côté d'une femme mariée, alors je ne sais pas, on ne voit plus le mariage, on ne voit plus... Je suis mariée, j'ai en plus la lettre, alors attention.
Vous avez des phrases, mais ça ne coule pas avec une femme. C'est comme ça, n'est-ce pas? Seigneur, je ne sais pas. C'est pas comme on dit neutre de ne pas parler d'une manière polie, de ne pas garder les relations normales, saines.
Parce que les phrases sont sèches, quoi. C'est vraiment... c'est toujours pris de contexte, donc il faut faire attention. Mais je suis désolée, bon. C'est comme ça que nous percevons, mon père.
Très bien. Mais n'hésitez pas de poser la question. Ça va. Alors, quelle est la punition? Voici un témoignage de l'indignation de Dieu. Alors, le prophète Isaïe, en parlant de la destruction de Jérusalem, en donne deux raisons déterminantes. Première, les blasphèmes du peuple contre le Seigneur. Ça se comprend. Et deuxième, s'il vous plaît, c'est le luxe des filles de Sion. Voici leur portrait et leur châtiment qui va suivre. Je lis en entier.
Isaïe, chapitre 3, verset 16 à 25.
Parce que la fille de Sion en marchait le cou dressé, clignant des yeux, avec des gestes d'applaudissement, allant à pas composés, tout cela pour attirer l'attention, le Seigneur leur rasera la tête, il les dépouillera de leurs cheveux, il leur enlèvera chaussures et boucles précieuses, chaînes de perles, colliers, bracelets, ornements de coiffure. Peigne, jambière, chaînette, sachet et boucle d'or. Faites tout ça pour tout. Anneaux et perles pendant sur le front. Linge exquis, mantelé, voile blanc et aiguille. Miroir, lin très fin, bandeau et aigrette. Au lieu des odeurs suaves, la puanteur. Une corde au lieu de ceinture. La calvitie en place de cheveux crêpés. Au lieu d'un corsage élégant, le silice. Dieu permet l'invasion sur Jérusalem ça serait sur Nabucodonosor, où va suivre l'extermination du peuple et la ruine du temple et la déportation d'une partie du peuple en Babylonie, aussi bien à cause des blasphèmes qu'en punition du luxe des filles d'Israël. On pourrait objecter, alors j'écoute, j'entends votre objection, ce n'était que l'Ancien Testament adressé au peuple à l'époque du Rhin, d'où cette sévérité de Dieu. Mais le Nouveau Testament est pourtant plein d'amour. Voilà. Et notre Seigneur, dans la citation qu'on a vue tout à l'heure, avait-il dit, qu'avait-il dit? Il n'avait pas de l'indulgence pour un seul regard de concupiscence. Je répète, de concupiscence, vous voyez. Et avec quelle fin il menaçait, non pas l'appel de l'habitation et la déportation dans un pays lointain, mais la perte éternelle de l'âme. Donc, Dieu châtie d'une manière ou d'autre le luxe sans retenue. Luxe sans retenue. Quand il sera affiché par des femmes chrétiennes. En comparaison, il y avait peut-être un lieu, il y avait des femmes, des jeunes filles qui se portaient mal, maintenant l'église qui le peuple a lu. Si les chrétiens font pareil, le châtiment sera comparable. Et est-ce que dans la tradition, nous ne voyons pas le signe du châtiment? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Heureusement que la prière de la nazie n'est pas. Ça va?
Oui, c'est dans la mesure. Après, effectivement, le luxe, et d'ailleurs, je crois que Monseigneur de la Suisse disait pareil, à cause de la Première Guerre mondiale, c'est effectivement le reniement des nations, à la France au moins. Et puis le luxe, là, toutes les réunions, toutes les cérémonies, même les premières communions, ça donnait lieu à du luxe tempérant. Alors après, c'est ça, c'est la définition du luxe. Alors, je ne veux pas être parisienne, mais jusqu'où ça va, quoi, c'est ça.
Donc, on peut pas tout à l'heure par rapport à Saint-Augustin et le port des ornements chez le pape Marie. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus complet.
Parce qu'après, c'est aussi la grandeur du christianisme d'avoir relevé la femme, de l'avoir ennoblie. C'est vrai,
d'accord.
Et on oublie, c'est pas un sac de pommes de terre.
Exactement, il y a deux excès. Ouais.
Voilà, exactement.
Il y a deux excès, il y a certains milieux. Ouais.
Parce que les puritains, c'est ça, les puritains, c'est...
Voilà. Ça va, Mouche?
Moi, c'est joli, je ne sais pas faire des boutons.
Ça va, on continue? Alors maintenant, nous passons à un chapitre suivant, c'est les pères de l'Église et la modestie. Donc on va voir deux choses, ce qui vise par rapport au voile et sur la manière de se vêtir. Sur le voile, les pères insistent beaucoup sur cette question. Ils font remarquer que partout, aussi bien chez les femmes juives que païennes, les femmes portaient le voile. C'était une coutume générale. Tertullien, 155-220. Qu'est-ce qu'il dit? On reconnaît les femmes juives à l'usage du voile. Et deuxièmement, les femmes païennes d'Arabie, quand je dis en Europe, se couvrent non seulement la tête, mais la face. Bon, il y a cette idée que la femme a, c'est une coutume générale, que la femme avait une tête couverte, tout simplement. Clément d'Alexandrie, mort en 211 ou 216, les femmes mariées se voient le visage et les vierges se laissent à découvert.
Ah!
Ah! Mais cette dernière coutume est blâmée. Tertullien, toujours, parle de l'épaisseur du voile. Petite chose, mais bon, ça en fait passer, mais je pense avoir l'idée de ce qu'il disait le père, de l'épaisseur du voile. Le voile léger, d'après lui, ainsi, au passé. Bon, vas-y. Saint Justin, mort en 165. Alors qu'il, attention, reprouve l'usage du miroir et il dit que le voile comme un ou une casque, c'est masculin ou féminin, un casque, c'est comme une protection. Je pense que c'est davantage pour les autres. Alors, revenons au Saint-Paul, qui a prescrit le voile. Il n'a fait que, en fait, sanctionner un usage universel qui s'effaçait tout doucement. Il a maintenu et endommé les raisons, le pourquoi. Et deuxièmement, on a vu le voile, voyons maintenant ce que disait le Père par rapport à la manière de se vêtir. Quelques passages. Tertullien. La pudeur consiste aussi dans la décence simple des vêtements. Chrétiens et chrétiennes ont la vocation, non pas des délices, mais des croix et du martyr. Et il conclut en faisant une description d'une parure spirituelle. Enfin, soyez pourvus des ornements et des procédés de toilette que nous fournissent les apôtres. Que la simplicité vous mette du blanc, et la vivacité du rouge sur le visage. Que vos yeux soient peints de sainte réserve. Dans la retenue de votre esprit et de votre langue, portez les boucles d'oreilles de la parole de Dieu. Revêtez-vous de la soie de la probité, du lin de la sainteté, de la pourpre et de la pudeur. Ainsi paré, vous gagnerez le cœur de Dieu. Saint Cyprien, mort en 258. Qu'est-ce qu'il dit par rapport aux artifices de beauté féminine? Alors, question. Celui qui dit, ce sont les anges apostats qui enseignent à marquer les yeux d'un cercle noir, à peindre les joues d'une rougeur menteuse, à donner aux cheveux une teinte artificielle, à éliminer le ton naturel de la bouche et de la tête par des procédés factices. Alors, conclusion, c'est là ce que nous venons de dire, c'est là qu'on rentre un peu l'œuvre de Dieu. C'est lui qui dit, en jugement, après la mort, aura du mal à la reconnaître. C'est pas moi, je ne connais pas. Et Saint Jean Chrysostome, mort en 407, voilà ce qu'il disait à la manière, vis-à-vis de la manière de s'habiller des femmes à l'église même. Est-ce pour danser que tu viens à l'église? Tu te présentes à Dieu pour implorer le pardon de tes péchés. Qu'as-tu à faire avec ce luxe mauvais et déplacé? Maintenant, passons au sixième chapitre, la pensée de Saint Augustin. J'annonçais tout à l'heure, Saint Augustin mort en 430. Alors, c'est en Saint Augustin que nous devons la règle qu'on peut appeler celle du plus et du moins. Plus on recherche les ornements du corps, moins on se soucie des ornements de l'âme. Moins on se met en peine des parures extérieures, plus l'âme se pare de bonnes œuvres et de vertus. Deux exemples pratiques de la vie de Saint Augustin. Un jour, son ami évêque le consulte sur l'application aux femmes des règles apostoliques. Voici ce que Saint Augustin lui répond. En ce qui concerne les ornements d'or et des vêtements précieux, ce qu'il dit à lui, ne te hâte pas de les interdire, sinon aux femmes qui n'étant pas mariées, ni désireuses de se marier, doivent avoir pour unique pensée celle de plaire à Dieu. En ce qui concerne avoir la tête nue, c'est une chose inconvenable et répréhensible, même pour les femmes mariées. Et en ce qui concerne user du fard et de teinture, cela une supercherie par laquelle les maris eux-mêmes ne veulent pas se laisser tromper. Pour eux seuls, il est permis aux femmes de se parer. Conclusion, le vrai ordonnement des chrétiens, des chrétiennes consiste dans l'honnêteté de mœurs. On continue. Il y aura le temps pour les questions. Deuxième exemple, contre-exemple. Toujours la même chose, la vue sous un noble angle un peu différent. Une femme du vivant de son mari s'obstinait à porter le vêtement des veuves. Saint Augustin lui... Veuve. Oui.
Alors,
mais c'est pour... C'est pas une histoire, comment dire, criminelle. Saint Augustin, lui, remontre que le vêtement d'une femme mariée ne doit pas être le vêtement des veuves, parce que le vêtement d'une femme mariée comporte un certain ornement que le mari est en droit d'exiger. Tout ça. Alors, il y a deux cas possibles. Si le mari contraint sa femme à porter une parure excessive, que doit faire, hein? Qu'est-ce que je dois faire?
Tout dépend de ce qu'on appelle excessif.
Très excessif.
Tout dépend
du
niveau de société.
Alors, je vous réponds. C'est Saint-Augustin qui répond. Elle doit conserver son cœur dans l'humilité et être détachée. Elle doit porter parce que son mari qui exige, bon, soit suffisamment indécent. Et deuxièmement, si le mari se tient satisfait d'un entraînement décent. Alors la femme ne doit pas descendre, ne doit pas le mécontenter par une tenue de veuve. Je pense que ça s'éclaircit avec le temps. Bon, c'est un résumé, j'essaie d'expliquer, mais on ne peut pas dire tout au même moment. Vous voyez? Vous voyez? Et la dernière chose, le deuxième chapitre, Saint Bernard de Clairvaux, mort en 1153, et Sainte Ombéline, qui est Sainte Ombéline, d'après vous. Alors, la sœur de Bernard, vous connaissez l'histoire ou pas du tout? Oui?
Non.
D'accord. La sœur de Bernard était mariée dans le monde et adonnée au monde. Un jour, quand elle venait rendre visite à son frère, elle se présentait avec une tenue respirant l'orgueil. Bernard refusa absolument de sortir pour la voir. À ce refus, toute confuse, elle fondit en larmes. Si je suis une pécheresse, s'exclama-t-elle, le Christ est mort pour les pécheurs. Si mon frère méprise mon corps, que le serviteur de Dieu ne méprise pas mon âme. Qu'il vienne, qu'il commande. Je suis prêt à faire tout ce qu'il m'aura commandé. Son frère sortit auprès d'elle. Il lui interdit toute gloire mondaine dans la recherche des vêtements. Il lui enjoignit de prendre le genre de vie que mena sa mère pendant son mariage. Tout simplement. Elle rentra chez elle, toute changée. Et désormais, elle menait au milieu du monde la vie d'un anachorète. Ça va, anachorète? Anachorète. Religieux qui vit dans la solitude. Elle se rendit étrangère à tous les usages du siècle. Son mari, après 2 ans, lui permit de servir Dieu comme elle voulait. Elle rentra au monastère où Dieu la favorisa d'une grande grâce de sainteté. On conclut. Voilà l'exemple d'un vrai amour des âmes. Saint Bernard voit une âme qui court le risque de se damner. C'est pas trop fort de se damner, d'après vous? Alors, qu'est-ce qu'un péché exactement? Qu'est-ce qu'un péché? Il y a deux choses dans le péché, d'après vous.
Une offense à Dieu, une révolte.
Il y a en fait deux choses. En fait. Deux choses qui doivent aller ensemble. On se tourne vers une créature En même temps, on se détourne de Dieu. Vous voyez, il faut deux choses. Parce que chez les époux, on peut se tourner vers une autre créature, vers son conjoint, en ne se détournant pas de Dieu. Pour le péché, il faut deux choses. On se détourne de la créature et on se détourne de Dieu. Alors, qu'est-ce que fait une femme immodeste? Vers quoi elle se tourne? Vers qui? Voilà. Alors, si on se tourne vers soi-même, c'est facile de se donner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait le saint? Saint Bernard, il a arrêté sur la pente du précipice et la met au lieu sur un. Alors, son aversion pour le luxe et l'immodestie des femmes n'est pas une aversion contre les femmes, mais contre le péché. Il était sévère, mais les sévérités des saints sont de grandes miséricordes de Dieu. Je finis vos questions. Il y aura à la fin 5 minutes récréatives. Oui. Oui.
Les femmes ont eu la tête couverte jusqu'en 1960. Parce que même si la femme chez elle n'avait pas la tête couverte, elle sortait toujours couverte. Elle sortait toujours couverte. Donc c'est bien une révolution aussi.
Oui, enfin, les découvertes, ça peut être de la chose. Parce que par exemple en Bretagne, tu fais quoi? Même ici, tu fais quoi? À la Combre-Dôme.
Ça, c'était le chapeau, le foulard, hein, le petit foulard, le petit chapeau. Non, mais dans les années 60,
70, oui, c'était déjà. Vous ne voulez pas qu'on verra tout à l'heure, hein?
Justement. Oui.
Est-ce que vous avez des questions de ce qu'on vient de dire? C'est pas trop, comment dire, est-ce que vous l'acceptez ou vous avez quelques demandes à y mettre?
Hein? Et donc, moi, ce qui m'a surprise, mon père, c'est les phrases que vous avez citées, l'ecclésiastique, de dire que la femme, finalement, c'est un être, c'est un démon, quoi. Je ne peux pas la présenter. Alors, c'est ce que j'ai
perçu.
Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais c'est...
Sans des femmes.
Bon. Oui, parce que là...
D'abord, la courtisane. Ensuite, une chanteuse. Bon. Mais ce qui nous intéressait, c'est une femme qui a été appelée élégante, cela veut dire qu'elle est trop luxueuse, si je puis comme ça.
Mais c'est pas compliment d'être traité d'élégant,
vous voyez. Oui.
Les Françaises ont toujours été réputées pour être élégantes, et ça n'a jamais été considéré comme un mal. Elle va avoir le
goût de s'arrêter. Il y a toujours un milieu, vous voyez.
Toujours, c'est ça.
Toujours un milieu. Ça dépend à quoi pense une femme qui s'habille ainsi.
Oui, mais
ça, c'est
dans
quand vous êtes en face et vous discutez, ça peut arriver de quelqu'un qui
va s'y aller. Mais c'est les banquets, ils étaient allongés. Après, il y a sans vélos, voilà, il faut qu'on s'assoie.
Écoutez, la série, elle ne s'accoule pas seulement, mais il voit encore qu'on sent du vin.
Oui, on comprend ce que ça veut dire.
Dans la même coupe.
Juste que ça coûtait ça. Mais c'est vrai que la femme, là, a un rôle tentateur. Parce que l'amour, ça me sort, ça ne se
dépend pas. Non, je ne sais pas où je l'ai lu. C'est pas ici, mais il y avait une phrase qui, je pense, il est. Il faut être toujours prudent. Il faut être prudent.
Oui.
Ça veut dire, bon, la phrase, je ne sais pas si je peux le dire correctement. Ne s'approche pas du feu parce que tu es de la paille. Vous voyez? Vous voyez? Il faut être prudent, tout simplement. Même si deux personnes sont mariées, On a ces grâces d'état, mais on sait bien que les grâces d'état ne sont pas automatiques. Vous voyez, il faut aider les grâces d'état. Je pense que c'est
très
prudent. C'est pour ça qu'il est dit prudence. Et il faut aussi expliquer ce que ça veut dire une prudence. Ça ne va pas dire qu'il faut arrêter les relations de la société. Vous voyez, être prudent tout simplement. Être prudent. Ça va mieux?
Oui, merci mon père. Mais c'est vrai, il y a un contexte. De toute façon, on est dans une époque où, même si on essaye de lutter contre, on a l'esprit, formaté. L'Église est forcément misogyne, forcément.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Misogyne, qui n'aime pas les femmes.
Je cherchais ce mot, je crois.
Misogyne. Qui n'aime pas et qui méprise, ça c'est
Ami. Voilà.
Ami, c'est G-Y. Ami, S-O, G-Y, Ami. Les anthropes.
Mais vous pensez si, renversant l'argument, si on laisse les femmes de s'habiller en homme d'une manière, comment dire, provocante, est-ce qu'on ajoute à la femme le respect, je pense?
Non, bien sûr. Et d'ailleurs, l'Église a toujours protégé la femme. Et c'est facile de répondre ça.
Et vous pensez au début, en fait, de la chrétienté. Les femmes, elles étaient vraiment traitées, pour la plupart des cas, comme des esclaves. Des esclaves.
D'ailleurs, c'est que la religion catholique.
Et ça revient aujourd'hui. Voilà. Voilà. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas qu'on y rajoute à l'Église ce qu'ont fait les protestants, par exemple. Ça veut dire qu'il est. Ça dépend aussi des protestants. Mais qu'il était soit. Vous avez plusieurs ça, vous avez les puritains qui. On va faire prière au secours.
En tout cas, c'est sûr que la plupart des. La libération de la femme, en général, ça vient, c'est venu du milieu protestant, la contraception, le divorce, et même l'absence de la coiffure. Hein. Parce que vous voyez, en 1960, les femmes avaient encore un chapeau, c'est vrai dans les pays catholiques, mais je crois que dans les pays protestants, déjà, c'est. Ce qui fait qu'en Allemagne, par exemple, même dans la tradition, ils ne portent pas le voile à l'église. Hein. C'est vraiment perdu complètement. Même les catholiques.
Maintenant, parce que bon, comme on dit, quand je me souviens de ce qui était l'Église avant, mais après la transformation, c'était la liberté un peu partout, alors c'était terrible. Je me souviens toujours à l'Église, bon, c'était toujours la nouvelle messe, mais il y avait des femmes, des hommes à côté, il n'y avait pas de ce mélange. Et toutes les femmes avaient quelque chose sur la tête, c'était normal, hein. C'était normal. Hein. Il n'y avait pas de femme en pantalon jusqu'à. C'est très rare en fait, jusqu'à 90. Mais ensuite, aujourd'hui, si vous voyez une femme en jupe, c'est presque 90%, c'est une.
C'est une exception.
Très très grande exception. Très très grande exception. Et c'est la mode, hein. C'est la mode. Vous avez eu un problème récemment?
Non, je ne les ai pas.
D'accord. Ça, c'est une déconne, hein. Ça se démerde, il n'y a pas de tout. C'est vrai. C'est une question, d'accord. Alors, le 5 minutes récréatif, je ne sais plus. C'est pas moi.
Le père m'a demandé pour vous parler des coiffes, en particulier des coiffes bigoudaines, parce qu'avant la Révolution, les bigoudaines avaient des coiffes pas très hautes. Et au moment de la Révolution, les prisonniers ont rasé les clochers et pour protester, elles ont allongé la coiffe.
C'est la coiffe bigoudaine.
Il y a une photo où on voit la bataille de l'Andec.
C'est la première fois que je vois une voile. Je crois qu'il y a des missions, c'est pas possible. Ah non, on va faire des missions. Il y a un outil qui a des missions.
Pensez,
voilà.
Ah oui, là, c'est quelque chose, c'est extraordinaire.
Ça, c'est excitant.
Est-ce qu'il y avait des coiffes régionales d'Anjou?
Oui, il y a le musée des coiffes.
Elle est comment? Plus ou moins. Elles sont là, non? Elles sont là, non? Les coiffes d'Anjou?
Avait fait un petit fichu que tout le monde, enfin un petit bonnet que tout le monde portait, que ce soit les mamans ou que ce soit les petites filles, elles étaient toutes pareilles. Donc ça, il n'y a pas de concurrence,
il n'y a pas
de liberté.
C'est pareil. Vous pouvez le penser. Au début du 19e siècle, il y a eu ici à Angers, je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme congrégation, et c'était donc une personne qui voulait faire une nouvelle congrégation religieuse. Et l'évêque avait interdit. Et au bout de quelques temps, elle a été dénoncée pour avoir transgressé l'ordre de l'évêque et avoir commencé sa congrégation religieuse. Elle dit, mais non, pas du tout, c'est simplement des jeunes filles qui viennent de la région de Cholet et qui ont leur habit tradition habituel. Et on avait du mal à distinguer religieuse. Une fille de la campagne, elle était habillée.